Allez, c'est avec un joli sombrero que nous allons démarrer cette chronique aujourd'hui avec vous, Annick Baléry, bonjour.
Bonjour Philippe.
Je dis quand même boléro parce qu'on va parler un peu d'exotisme aujourd'hui. Et de l'exotisme, où ça? Ben avec vous, au jardin.
Dans le jardin.
Dans
voilà.
Le jardin, voilà.
Alors c'est amusant que vous ayez parlé de sombrero.
J'ai pas fait exprès.
Vous êtes trop fort.
Ah,
voilà, très très fort. Parce que je voulais vous parler rapidement, mais peut-être qu'on fera une émission exprès sur ce monsieur. D'un monsieur brésilien qui a été à l'origine d'un renouveau des jardins exotiques qui s'appelle Roberto Burle-Marx. Alors, si vous cherchez, vous trouverez. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui est parti sur l'utilisation de plantes locales, contrairement à ce qui se faisait auparavant, et qui a créé vraiment des jardins extraordinaires à partir de végétaux du pays. Et qui en plus avaient des besoins voilà, qui correspondaient à ce qu'on pouvait leur fournir. Donc des cactus, des choses, ou alors des choses très, très exotiques, comme les plantes qu'on peut trouver en Amazonie, et qui a composé des jardins à partir de là, et qui en a fait aussi en Floride et dans d'autres endroits. C'est quelqu'un qui est devenu assez célèbre, qui malheureusement, on n'en parle pas trop, mais bon, je vous ferai une émission peut-être là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est une piste. L'exotisme, ça va être un choix de végétaux et une référence à un climat qui n'est pas forcément le nôtre. Alors ça peut être quelque chose de très dépouillé, un paysage rocailleux avec des agaves, avec des choses, voilà, des aloés, des choses qui vont être très graphiques, hein, qui vont quand même demander à avoir un climat suffisamment chaud en hiver, ou des protections.
D'accord.
Voilà. Mais quelque chose, voilà,
mais qui n'est pas impossible ici.
Qui n'est pas impossible ici. Voilà. L'idée, c'est que quand on est sur des plantes comme ça, ce qui est bien, c'est d'avoir à côté des gros cailloux qui vont pouvoir servir de réservoir de chaleur en hiver. C'est-à-dire que le soleil va taper dessus pendant la journée et puis va réfracter de la chaleur pendant la nuit.
D'accord.
Voilà. Alors ça peut être protégé du vent, ça peut être dans un creux où il va y avoir des gros graviers. Enfin là, c'est à vous de choisir. Et après, quand on est sur des plantes comme ça, ce qui est intéressant aussi, c'est de ne pas avoir d'eau résiduelle au pied. C'est-à-dire que si vous plantez des plantes de la famille des cactus ou des succulentes, déjà éviter d'avoir de l'herbe autour qui va amener de l'humidité, et avoir un sol drainant, c'est-à-dire si vous avez un sol qui retient bien l'eau, à la plantation rajouter du sable par exemple, ou des choses qui vont faire que l'eau ne va pas rester. Alors une autre piste aussi, l'exotisme, ça peut être la jungle. On peut penser à ces gravures qui existaient dans les livres du 19e siècle, genre Robinson Crusoe, où on voit l'homme tout petit à côté de grandes plantes avec des grandes, grandes feuilles. Et vous pouvez jouer là-dessus, ces silhouettes avec les grandes feuilles qui rendent l'homme tout petit, ça peut être intéressant aussi. Donc dans ce style-là, vous avez les bananiers qui s'adaptent bien chez nous. Alors les bananiers craignent par contre énormément le vent. Quand vous mettez des bananiers en plein vent, les feuilles sont très fragiles, elles se déchiquettent très vite. Donc si vous en mettez dans votre jardin, vous évitez les courants d'air. Il en existe plusieurs variétés, dont des variétés assez petites avec des feuillages pourpres qui sont assez jolies. Les belles années, moi j'ai vu ça dans un jardin d'école, on peut voir apparaître le régime de bananes, bon, qui arrive rarement à maturité, mais bon, c'est un petit côté exotique qui peut être sympathique. Voilà, tous ces grands feuillages qui font paraître l'homme petit et qui font référence à d'autres climats. D'ailleurs, les bananiers, si vous en avez au jardin, vous pouvez vous en servir pour faire des papillotes. Il y a des recettes thaïlandaises de barquettes de poisson en papillotes de feuilles de bananier. On en trouve dans certains magasins de produits frais de la feuille de bananier. Donc, vous pouvez faire ça à la maison, à condition, bien sûr, que que vous ne sulfatiez pas la, la bestiole. Et après, tout ceci, dans les grandes feuilles aussi, il y en a des très grandes qui s'appellent les Gunera, qui sont vraiment gigantesques, mais qui demandent un grand jardin. Voilà, vous pouvez partir là-dessus. Ce qui est aussi dans ce style grande feuille, vous avez les canas. Les canas, ce sont des plantes qu'on appelle aussi d'un joli nom, que je préfère d'ailleurs, le balisier. C'est pas beau, ça?
Ah oui,
le
c'est
balisier.
Joli.
Voilà, originaire d'Amérique du Sud, présente encore au Pérou. Alors, c'est une plante qui a été importée au début parce que le tubercule est comestible. Il est d'ailleurs utilisé encore au Pérou pour complément alimentaire pour les enfants et les vieillards. Et c'est une plante que l'on voit pousser souvent dans des jardins de casino ou dans des stations thermales. C'est le genre de plante qu'on aime bien dans ce genre de cadre, qui va bien d'ailleurs avec l'architecture. Et vous avez des grandes fleurs sur des hautes tiges. Donc il y a plein de variétés maintenant, il y a du jaune, il y a du orange, mais moi franchement je préfère la variété du départ. Il y a une fleur d'un beau rouge vermillon qui est assez légère, hein, qu'on a voulu doubler, tripler, mais bon voilà. Et alors ce qui est amusant, c'est que les graines de ce cana sont sous forme de petites billes rondes, noires. C'est très amusant, on dirait des perles. Et les Espagnols s'en servaient comme mitraille quand ils étaient en panne de munitions.
D'accord.
Ils mettaient ça dans leur fusil d'époque. Alors le nom ne me revient pas, ça fait rien. Je crois qu'il y avait des espingoles, enfin il y avait des noms assez exotiques. Et ils s'en servaient comme mitraille pour voilà, comme munitions.
Bravo.
Voilà, bravo. Oui. pauvre fleur, si elle avait su. Voilà, tout ça peut être sympa. Vous avez dans ces canins, en plus vous en avez maintenant qui ont des feuillages striés, panachés, qui peuvent rajouter aussi un côté un peu exotique à un massif. Et après, dans l'exotisme, on a aussi le côté asiatique. Alors, pendant très longtemps, il y a eu une furieuse mode des bambous. Alors, les bambous, sur les terrasses, c'était la grande mode. On voyait tous les magazines de décoration. On faisait des écrans pour se cacher du vis-à-vis, gna gna gna. En attendant, les bambous, c'est extrêmement consommateur d'eau. Donc vous partez en vacances une semaine, vous revenez, exit les bambous parce qu'ils n'ont pas eu à boire. Ce sont des plantes qui poussent dans des climats souvent très très humides et qui ont vraiment besoin d'être très arrosées pour être en bonne forme. Et quand vous avez ça dans le jardin, le problème c'est que le bambou galope.
Alors, les racines, voilà, il paraît que voilà. C'est affreux. Oui.
Alors moi j'en ai eu dans le jardin et en fait on avait un truc au printemps, on donnait des coups de pied dans les pousses qui sortaient, ça se cassait comme du verre et on avait vraiment réussi à limiter,
à les canaliser.
Voilà, on n'a jamais eu besoin ni de faire de fossé ni quoi que ce soit. Et après un coup de tondeuse s'il y avait des récidivistes et on avait toujours réussi à les contenir de cette façon-là. Il faut savoir qu'un bambou, au départ, vous avez une pousse. Le nombre de cellules est déterminé et les cellules ne font faire que s'étirer pour former la pousse finale. C'est-à-dire que si vous donnez un coup de pied dedans, il n'y a pas de repousse, quoi. C'est terminé, la tige ne sortira pas.
D'accord.
Alors en plus, j'avais une maman vietnamienne qui m'avait donné une recette pour les consommer, que j'ai un peu oubliée, mais je sais qu'il y avait un mélange acidulé, sucré. On avait fait ça quelques fois. Il paraît que c'est très très bon pour la minéralisation du squelette. Bref, donc si vous voulez pas avoir ce genre de problème, il faut taper dans une famille de bambous qui s'appelle les Fargesia. Et si vous êtes chez les Fargesia, ce sont des bambous non traçants, donc vous n'aurez pas à shooter dans les pousses au printemps. Ça va rester sagement dans son coin. Mais n'oubliez pas que le bambou a besoin d'humidité pour pousser. Après, quelque chose moi que j'expérimente en ce moment dans ma cour d'immeuble, c'est que au lieu de vouloir absolument installer du gazon dans les endroits où ben, le gazon il veut pas rester, le gazon il vous dit je m'en vais, ça me plaît pas et où la mousse gagne. Essayez les jardins de mousse. Ah, c'est extraordinaire. Alors, c'est quelque chose, nous, qu'on combat à grands coups de sulfate de fer, ce qui est une erreur, parce que le sulfate de fer, une fois qu'il a détruit la mousse, ça sert de fertilisant et la mousse repart de plus belle. Mais dans des pelouses asphyxiées comme ça, où il va y avoir trop de froid, trop d'humidité, laissez pousser les mousses. Et si vous ne savez pas à quoi peut ressembler un jardin de mousse, allez vous voir un peu sur Internet. Et il y a des jardins japonais qui ne sont faits qu'avec ça, avec des variétés différentes, avec des mousses qui vont faire des étoiles, d'autres qui vont faire des petits velours. Et vous avez ça comme base. Après, il suffira de peu de végétaux pour que le jardin soit vraiment beau. Donc, quand on est sur le jardin japonais, ben on tape dans le camélia. Hein. Le camélia, alors le camélia est un vampire, au cas où vous ne le sauriez pas. Alors le camélia, si vous voulez garder des camélias en bonne santé et si vous ne voulez pas que les feuilles jaunissent lamentablement, il faut leur donner du sang séché.
D'où le nom de vampire.
Voilà. Et vous allez
et
dans les...
Qu'on trouve du sang séché.
Alors on va dans les magasins de jardinerie, ouais. Et dans le coin amendement naturel, on va trouver du sang séché, on va trouver de la corne broyée aussi. La corne broyée qui est excellente pour faire pousser les iris, entre autres. Hein. Ça donne de la matière sèche aux plantes. Donc, le camélia, quand vous voulez l'abreuver, vous gratouillez un petit peu au pied, vous faites pénétrer la poudre de sang séché. Et puis ensuite, et on arrose et après, il sera heureux et verdoyant et magnifique. En fait, ça lui apporte du fer. Hein.
D'accord.
Voilà. Les érables aussi, que l'on trouve de plus en plus dans des variétés différentes. Alors, vous allez avoir l'érable avec la feuille rouge, d'autres qui vont être panachés. Et on en trouve vraiment partout maintenant, y compris dans les supermarchés. Il y a des promos. Quelquefois, vous avez le petit érable que vous aurez le plaisir de voir pousser pour 3 francs 6 sous. Donc, c'est formidable. Là, vous pouvez vous faire plaisir. Ça fait des sous-bois absolument délicieux avec des petites feuilles en forme d'étoile, ce qu'on appelle la serre palmatum. Voilà. Donc, ça, pour une mise de fond finalement assez réduite, vous pouvez vous faire plaisir, faire pousser vos propres érables. On arrive de plus en plus à en trouver. Il y a une mode et puis tant mieux. Et vous avez des feuillages d'automne en plus qui vont être magnifiques. Et là, vous êtes dans votre petit coin de Japon. Là, c'est formidable. Vous mettez une petite lanterne en pierre ou en fausse pierre et vous y êtes là. C'est formidable.
On est dans l'exotisme.
Voilà.
Merci beaucoup, Annick Baléry. Hein, voilà. On peut enlever le sombrero.
Voilà.
Et puis, on aura bien sûr, vous nous l'avez promis, une chronique avec ce monsieur. On parlerait de ce personnage.
Voilà, on a commencé en sombrero, on finit en kimono. Vous avez vu un peu.
Et on a bien voyagé.
Voilà,
hein.
C'est pas mal.
On a traversé la moitié du globe pour aller d'un côté à l'autre.
Exactement.
Merci beaucoup, Annick Baléry. Et puis, voilà aussi une idée de chronique avec des personnages qui ont marqué. Un
tout
peu
à
la,
fait.
Les jardins, la.
Les plantes. Moi, j'ai une. Je suis fan des explorateurs, moi, je trouve ça extraordinaire.
Je me souviens de cet Anglais où vous nous avez dit comment il arrivait à transporter les plantes avec sa cage.
Oui, c'était l'Anglais, le docteur Anglais qui avait inventé une armoire, ce qu'on appelle l'armoire de Ward.
Voilà.
C'était un monsieur Ward. Et à partir du moment où il a découvert que les plantes pouvaient pousser en vase clos dans une bonbonne, il a fabriqué une armoire vitrée et il a envoyé, c'était fin du 19e siècle, des fougères en Australie. Elles ont voyagé pendant plusieurs mois. Elles sont arrivées en pleine santé depuis Londres et ça a changé la vie des...
Exactement. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a beaucoup de choses qui sont arrivées maintenant chez
Exactement.
Nous, puisque là, on prenait pas l'avion, c'était pas quelques heures.
À l'époque, on avait guère que les graines pour pouvoir reproduire les plantes. Et à partir de ce moment-là, on a eu des plantes entières vivantes. Et c'est là qu'a commencé la mode des orchidées.
Voilà. Donc, monsieur Ward, vous nous aviez fait une chronique sur,
Ward,
sur ce monsieur. Merci beaucoup, Annick Baléry. On a du mal à vous quitter, mais on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Philippe.